Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement. Jean Dalibar.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce deuxième cours de la série de cette année, qui est donc consacré aux interactions magnétiques entre atomes froids. Comme je vous rappelle, c'est un sujet qui a émergé il n'y a quand même pas très longtemps. C'est la possibilité de manipuler des atomes qui sont des petits aimants très puissants entre eux. On parle beaucoup de dysprosium, d'erbium, vous verrez, et qui forment des états de la matière tout à fait spectaculaires. Donc le cours d'aujourd'hui va être consacré à la détermination de l'état d'équilibre d'une assemblée d'atomes magnétiques à température nulle, des bosons, et donc je l'ai appelé condensat dipolaire à l'équilibre. Condensat étant sous-entendu condensat de Bose-Einstein. Alors avant de commencer, je vous rappelle les prochains séminaires. Un petit peu plus tard, ce matin, on va avoir le plaisir d'écouter Sheng Xin, qui va nous parler de réactions chimiques, mais de réactions chimiques dans des condensats de Bose-Einstein, justement, entre des atomes et des molécules, avec la production de produits de ces réactions stimulées par la statistique de Bose. La semaine prochaine, ce sera Rudy Grimm, qui viendra nous parler de mélange de fermions ultra-froids, et puis du problème de Polaron. Dans deux semaines, ce sera Patrice Vignolo qui nous parlera de l'effet boomerang quantique. Très joli effet. Et puis, je vous rappelle quelque chose que j'ai déjà annoncé la semaine dernière, qui est le fait qu'on organise avec Michel Brune un petit atelier, un mini-colloque d'une après-midi, sur les atomes de Rydberg et la simulation quantique. Voilà, ce sera le vendredi 5 avril. Alors, comme je le disais, le thème général du cours de cette année, c'est comprendre comment est-ce que, quand on a affaire à une assemblée d'atomes qui portent chacun un dipôle magnétique important, comment est-ce que ça modifie les propriétés de la matière quantique, et par matière quantique, ben, j'entends essentiellement les condensats de Bose-Einstein. Alors, le fait que la question soit non triviale, ça vient de deux aspects de cette interaction entre dipôles magnétiques. Le premier aspect, c'est que l'interaction dipôle-dipôle est à relativement longue portée, en 1 sur R3. C'est une portée beaucoup plus longue que, par exemple, l'interaction de Van der Waals, qui est en 1 sur R6, qui décroît beaucoup plus vite à l'infini. 1 sur R3, ben, ça conduit à des effets qui sont non locaux dans les systèmes, on le verra. Donc ça, c'est le premier aspect non évident des interactions magnétiques. Et le second, eh bien, c'est le fait que cette interaction est anisotrope. C'est-à-dire que quand je prends mes dipôles, là, sur le dessin, je les ai dessinés tous polarisés le long de l'axe vertical, eh bien, selon que les dipôles sont comme ça, côte à côte, ou au contraire, l'un derrière l'autre, l'interaction est soit répulsive, soit attractive. Et ça vient enrichir considérablement la nature des états qu'on peut produire. Alors, en parallèle avec ces aspects qui sont des aspects qualitatifs, eh bien, des aspects quantitatifs, c'est le fait qu'il y a certaines espèces atomiques qu'on sait maintenant bien manipuler par laser, comme le dysprosium ou l'erbium, pour lesquels l'interaction dipôle-dipôle magnétique est importante, plus importante que l'interaction de Van der Waals ou la liaison chimique habituelle. Elle est donc dominante, et c'est ça qui vient jouer un rôle important sur la structure des états de la matière qu'on peut produire. Et ces états de la matière, ben là, ici, j'en ai donné deux qu'on va étudier dans les cours qui vont suivre. Un premier, c'est un état liquide. Ce que j'entends par état liquide, c'est un état où la densité est constante. Quel que soit le nombre d'atomes que je vais mettre, la densité sera constante. Et simplement, plus je mettrai d'atomes, plus l'état grossira. Mais ce ne sera pas du tout un état gazeux qui tendra à occuper tout le volume qui lui est offert. Ce sera un état où les atomes resteront liés les uns aux autres sans potentiel extérieur et produiront l'équivalent d'une petite gouttelette liquide, c'est-à-dire dans laquelle la densité est uniforme jusque sur les bords. Un autre état qu'on va étudier dans les cours qui vont suivre, on lui consacrera pas mal de temps, c'est un état super solide. Là encore, c'est un état qu'on n'est pas habitué à rencontrer dans les gaz quantiques. C'est un état où vous avez simultanément la brisure de symétrie qui correspond à l'apparition de la superfluidité. Donc vous avez un ordre superfluide, possibilité d'avoir des courants permanents, possibilité d'avoir des défauts qui bougent sans dissiper d'énergie. Ça, c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça brise l'invariance par translation. Donc vous avez l'apparition d'un ordre spatial dans ces milieux. Voilà, et donc le cours d'aujourd'hui, c'est poser les jalons pour ensuite aller étudier ces différents états liquides d'un côté, super solides de l'autre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder plus précisément? Eh bien donc, on va partir de notre gaz d'atomes, qui portent tous donc un moment dipolaire magnétique mu. Je vais supposer que tous ces atomes sont polarisés selon l'axe Z, donc le moment magnétique n'est pas un degré de liberté dans le problème. Je suppose que j'ai mis un grand champ magnétique extérieur dans mon problème, donc tous mes dipôles sont alignés avec le champ magnétique extérieur selon Z, et le degré de liberté qui m'intéresse, c'est le degré de liberté spatiale, le fait que les atomes peuvent bouger les uns par rapport aux autres. L'interaction dipôle-dipôle entre un atome et un objet, ben on l'avait regardé la dernière fois, on l'a redérivé ensemble. Hein. C'est donc cette variation en 1 sur R cube, 1 sur Rij cube, si j'appelle Rij la distance entre atome I et l'atome J. Et puis ce terme donc, que je qualifie d'anisotrope, qui fait intervenir d'une part le produit scalaire mu I scalaire mu J, et puis ensuite moins 3 fois mu I scalaire U mu J scalaire U, où I est le vecteur unitaire qui joint le dipôle I et le dipôle J. Si donc j'appelle θij l'angle entre le Rij et puis le Uz, le vecteur unitaire le long de l'axe Z, cette chose-là s'écrit 1 moins 3 cos carré θij. Et les questions que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est donc, quelle est la forme du fluide quand je le confine dans un piège? On va prendre un piège harmonique, parce que c'est ça qui est le plus simple, et c'est ça qu'on réalise en général dans les expériences. Donc on va prendre un piège harmonique, on va se demander qu'est-ce qu'on obtient comme forme d'équilibre du fluide. Et une question qu'on va se poser, qui est une question qu'on n'avait pas vraiment à se poser tant qu'on n'avait pas d'interaction dipolaire, c'est est-ce que ce fluide est stable ou est-ce qu'il peut imploser? Et la raison pour laquelle l'implosion est possible, c'est que vous avez ici une énergie d'interaction qui varie comme 1 sur R cube, donc qui est en valeur absolue plus grande quand les dipôles sont proches l'un de l'autre, et vous avez un terme de vent face qui peut être positif ou négatif selon l'orientation. Donc j'ai forcément moyen de rendre ce terme très grand et très négatif. Donc ça, c'est une source potentielle d'implosion, puisque je peux faire, en mettant les dipôles proches les uns les autres, je peux avoir des énergies grandes et négatives. Donc c'est la question qu'on va se poser. Et ce qu'on va voir dans le cours, c'est qu'il y a deux paramètres qui vont jouer un rôle important dans ce qui va suivre. Le premier, c'est de comparer la force des interactions dipolaires, leur intensité, si vous voulez, à l'autre interaction présente dans le système, qui est l'interaction de Van der Waals, qui est présente de toute façon quand on a affaire à des atomes neutres dans un piège. Donc il faut comparer la force relative des interactions dipolaires et des interactions de contact, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est si on dit qu'on confine les atomes dans un piège harmonique, eh bien c'est la forme de ce piège. Un piège harmonique, c'est caractérisé par trois axes propres, x, y, z. Je vais supposer que l'axe des dipôles est un axe propre. Eh bien, je peux imaginer, si je prends des pièges à symétrie de révolution, pour me simplifier la vie, je peux imaginer que j'aurai un piège qui sera plutôt en forme de galette, comme ça, avec une fréquence selon Z élevée, et puis une fréquence dans le plan XY plus faible, ou au contraire, un piège en forme de cigare, avec une fréquence selon Z faible et une fréquence selon XY élevée. Et donc, selon la forme du piège, eh bien, on n'aura pas la même réponse à la question de la stabilité ou de l'implosion éventuelle. Alors, je termine cette introduction en vous rappelant des ordres de grandeur pour vous montrer qu'effectivement, la question de se poser, la question d'étudier un condensat de Bolenstein est bien pertinente. Si je prends un gaz relativement dilué, en prenant une distance moyenne entre particules de l'ordre de 100 nanomètres, je prends un atome à fort moment magnétique, disons le dysprosium, un moment magnétique qui est égal à 10 fois le magnéton de bord, μB. Eh bien, un ordre de grandeur qu'on avait vu ensemble la dernière fois, c'est que si vous mettez ces deux atomes, mettons-les comme ça, côte à côte, donc interaction répulsive, si je prends ces deux atomes avec leur dipôle comme ceci, eh bien, l'énergie d'interaction, je répète ce qu'on avait dit la dernière fois, si je l'exprime en unité de température, c'est la constante de Boltzmann KB fois 60 nanokelvin. Et 60 nanokelvin, c'est une énergie relativement grande comparée à ce qu'on sait faire par refroidissement, par évaporation dans les gaz quantiques. On sait faire moins de 10 nanokelvin de température. Donc ça veut dire qu'on peut très bien réaliser des situations où cette énergie ici est dominante par rapport à l'énergie thermique. Donc ça a un sens de se poser la question, quel est l'état à température nulle ou au moins à température faible de ce gaz? On sait faire des températures beaucoup plus faibles que l'énergie d'interaction. Alors, je vais considérer dans tout ce cours des bosons. Le cas des fermions a été un petit peu étudié, des fermions, des gaz dipolaires de fermions, mais moins que le gaz des bosons. Et pour l'instant, la panoplie de résultats obtenus est un peu moins riche. Donc, je vais me concentrer sur les bosons. Et donc, je vais prendre un gaz de Bose à température nulle. Et pour faire simple, eh bien, je vais le considérer dans une approche qu'on peut qualifier de champ moyen. C'est-à-dire que je vais prendre un condensat vraiment tel qu'Einstein l'avait imaginé. c'est-à-dire que ma fonction dans un corps, psi de R1, R2, Rn, je vais dire que c'est une fonction produit, petit psi de R1 fois petit psi de R2 fois petit psi de Rn. C'est-à-dire que je prépare tous les atomes dans le même état quantique, la fonction d'onde psi. Mais il faut maintenant que je termine quelle est cette fonction d'onde psi qui minimise l'énergie. Et donc je fais cette approximation de champ moyen. Je supposerai que j'ai grand N atomes avec N grand devant 1. Je m'intéresse à un problème macroscopique. Et donc, mon approche de champ moyen, ça va consister, comme vous allez le voir, à dire qu'un atome est essentiellement sensible à la densité formée par tous les autres. Cette densité, ce sera N-1 fois psi de R au carré. Quelque chose que je peux écrire, c'est que dans tout le cours, je vais supposer que ma fonction psi de R est normalisée à 1, donc module de psi de R au carré des 3R égale 1. Voilà, oui, c'est lisible. Voilà, donc la densité atomique créée par les N-1 atomes restants, c'est N-1 fois psi de R au carré. Et comme N est grand devant 1, eh bien, je remplacerai partout N-1 par N. Donc ma densité, essentiellement, ma densité spatiale, ce sera N fois psi de R au carré. Et l'intégrale de ρ de R est égale au nombre d'atomes total grand N. Voilà. Alors, le plan du cours sera le suivant. Dans un premier temps, comme je sais que vous n'êtes pas tous très familiers avec les condensats de Bose-Einstein, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est l'approche champ moyen usuelle quand on n'a pas d'interaction dipolaire, simplement une interaction de van der Waals et puis une interaction ensuite qui correspond à la vraie liaison chimique entre mes atomes. Donc je le décrirai par une interaction de contact, V de Rj égale G delta de Rj. Et puis ensuite, eh bien, on passera, on s'attaquera au vif du sujet, c'est-à-dire l'interaction, l'approche champ moyen pour un gaz dipolaire, le critère de stabilité globale du gaz, tout ça on le fera dans un piège harmonique 3D. Et puis ensuite, très brièvement, j'évoquerai quelque chose qui nous servira pour la suite, les cours suivants, qui sera essayer de répondre à cette question. Que se passe-t-il quand on va vers des géométries semi-infinies? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un piège harmonique 3D, on prend un piège harmonique dans le plan XY, mais un tube infiniment long selon l'axe Z, par exemple, ou au contraire, un piège harmonique selon Z, mais un gaz uniforme dans le plan XY. Voilà. Alors, je commence donc par quelque chose qui va être un rappel pour beaucoup d'entre vous et qui sera nouveau pour beaucoup d'autres. Qui est l'approche champ moyen pour un condensat avec interaction de contact purement. Donc là, dans le paragraphe 1, il n'y a pas de dipôle. Dans ce cas-là, on sait, et là je peux vous renvoyer vers les cours des années précédentes ou vers tous les bons ouvrages, il y a des références dans les notes, on sait qu'on peut, dans le cadre de cette théorie de champ moyen, décrire les interactions simplement par une distribution de Dirac, fois petit g, où g va donc caractériser la force des interactions, et ce G est directement relié à la longueur de diffusion qui décrit la collision entre particules à basse énergie en onde S, petit a. Donc G, c'est 4 pi h bar 2 A sur M, où M est la masse des particules. Et dans tout ce paragraphe, sauf sur une diapositive, je vais supposer que G est positif, c'est-à-dire que la longueur de diffusion petit a est positive. Bien. Alors, je vais peut-être passer au tableau pour écrire quelque chose d'important pour qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Donc, je commence par l'hamiltonien à n corps. Donc, je prends, comme je l'ai fait sur le dessin, une collection d'atomes qui sont dans un piège, qui les confine, et donc l'hamiltonien de mon système, ça va être une somme sur tous les atomes, donc somme de J égale 1 à grand N, de leur énergie cinétique, Pj carré sur 2m, plus l'énergie de confinement U de Rj, voilà, et puis ensuite j'ai l'interaction entre tous les atomes, donc 1 demi de somme sur I égale 1 à N, somme sur J différent de I, je mets 1,5 pour compter qu'une seule fois l'interaction IJ, V de RI moins RJ. Et comme je le disais, ce qui m'intéressait, c'est donc que je vais me placer dans une approximation de champ moyen. Donc ma fonction dans N-corps, grand psi de R1, R2, Rn, je vais l'écrire petit psi de R1, petit psi de R2, petit psi de Rn. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai pas besoin d'écrire autre chose. Bon, ma fonction psi est normée. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est, dans cette approximation de champ moyen, d'écrire l'énergie de mon système, ce qu'on appelle la fonctionnelle d'énergie. Et elle porte les noms de ces inventeurs, Gross et Pitayevski. Alors, pour ça, eh bien, simplement, ce que je prends, c'est, j'appelle grand E cette énergie, associée à la fonction psi. Donc, c'est caractérisé par le psi qui est là. Ça, c'est simplement, dans ma fonction de Nankor grand psi, la valeur moyenne de l'hamiltonien que j'ai écrit à gauche, ici. Et donc, quand je fais le calcul, ben, je vais avoir trois termes. Un terme qui va être lié à l'énergie cinétique, un terme à l'énergie de piégeage, et puis un terme à l'énergie d'interaction. Alors, commençons par l'énergie cinétique. Donc, comme tous mes atomes partagent, enfin, sont tous dans la même fonction de psi, chaque atome, quand je vais calculer PJ carré sous M, va me donner le même résultat. Donc, je peux tout de suite mettre un grand N en facteur. Et puis, par ailleurs, l'impulsion P, c'est moins I H bar gradient. Donc, ça va faire au carré H bar 2 fois la gradient au carré. H bar 2 sur 2M, donc grand N H bar 2 sur 2M. Et puis, je vais avoir l'intégrale du gradient de psi en module au carré, les 3R. Ça, c'est le premier terme, énergie cinétique. Même chose pour l'énergie de piégeage grand U. Je vais avoir grand N fois l'intégrale de U de R. Il ne faut pas que je fasse mes U comme des V, sinon ça ne va pas être bien clair. Grand U de R, psi de R au carré, des 3R. Et puis ensuite, eh bien, j'ai la somme sur toutes les paires IJ, ici. Donc je vais en avoir NN-1 fois le 1,5, donc plus NN-1 sur 2. Une intégrale double, donc de V de R moins R prime, fois psi de R en modulo carré, psi de R prime en modulo carré, des 3R prime. Voilà, je vérifie que j'ai rien oublié quand même, ce serait dommage. Non, c'est bon. Et donc, dans ce qui va suivre, comme je le disais, on va prendre une interaction de contact pour décrire les interactions de Van der Waals, en 1 sur R6 plus les ions chimiques, elles sont à courte portée. Donc le V qui est ici, je vais prendre V de R moins R prime égale petit g delta de R moins R prime, ce qui va me permettre de simplifier cette intégrale double pour ramener une intégrale simple. Par ailleurs, plutôt que de travailler avec l'énergie totale, qui est donc l'énergie des n particules, je préfère travailler en général avec l'énergie par particule. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc grand E de psi, c'est grand E de psi divisé par n. Et donc ce que je vais trouver, bah, c'est, je vais réécrire la même chose. Hein, je vérifie que je ne veux rien mettre de plus. Oui, c'est ça. Donc ça va être le h bar carré sur 2m. Je divise par n. Hein, donc j'enlève le premier n. H bar 2 sur 2m, l'intégrale de gradient psi au carré, plus l'intégrale de U de R, psi de R au carré, plus donc ce qui apparaît ici, donc je divise par un des deux, un des n ici, donc il m'en reste un, j'ai dit que n-1 est à peu près égal à n, donc il va me rester petit g ici, grand n, sur 2, l'intégrale de psi 4, psi de R, puissance 4, puisque j'avais psi de R et psi de R prime qui contribuent tous les deux, les 3R. Voilà, donc ça c'est la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevski, celle qu'on utilise pour trouver l'état fondamental du système. Alors comment est-ce qu'on trouve l'état fondamental du système à partir de ça? Eh bien ce qu'il faut donc, c'est chercher le minimum de cette chose-là en faisant varier psi. Je fais varier psi dans tout l'espace des fonctions accessibles et je cherche le minimum. Alors quand je dis dans tout espace de fonctions accessibles, il faut que je me souvienne de la contrainte que je me suis imposée, c'est que psi doit être normé. Hein, donc la minimisation se fait sous la contrainte que l'intégrale de psi de R au carré des 3R est égale à 1. Pour ça, on introduit un paramètre de Lagrange. Ce paramètre de Lagrange, on le note mu d'habitude. Là, je vais le noter mu c parce que mu est chargé par les dipôles qui vont venir après, donc je l'appelle mu c pour potentiel chimique, mu c, voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est que je minimise E de psi moins mu c fois l'intégrale de psi au carré d3r. Et quand je fais cette minimisation, eh bien j'aboutis, je ne vais pas le faire ici, mais je l'ai fait en détail dans les notes, hein, il faut considérer que psi, c'est donc une fonction qui a une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle et la partie imaginaire sont indépendantes l'une de l'autre, donc il faut minimiser sur les deux. On peut, de manière équivalente, considérer que psi et psi étoile, psi et son conjugué, sont indépendants l'un de l'autre, donc on fait varier psi étoile et on garde ce que psi doit vérifier. Enfin bon, je vous laisse aller regarder ça dans les notes. On arrive à l'équation de Gross-Pitayevski. Donc, je peux écrire son nom. Donc il y a la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevski, qui est celle que j'ai écrite à gauche, et puis l'équation de Gross-Pitayevski, qui est le résultat de la minimisation, qui est donc moins h bar carré sur 2m laplacien psi, plus grand U de R, psi de R, plus G, alors il y a N, G, psi de R au carré, psi de R, égale mu C, mon potentiel chimique, psi de R. Voilà. Et c'est cette équation qu'il s'agit de résoudre pour trouver l'état fondamental du système. C'est le minimiseur, si vous voulez, de l'énergie qui est écrite ici. Bon, là encore, je vérifie que je n'ai rien oublié d'écrire. Non. Oui, je peux vous rappeler donc l'expression de la densité. Hein. Je dis que la densité ρ de R, c'était grand N fois psi de R en module au carré. Donc le N fois psi de R que vous voyez apparaître ici, ça deviendra la densité ρ de R tout à l'heure. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut se poser la question de comment résoudre l'équation de Gross-Pitayevski qui a été écrite ici. Alors, en règle générale, on ne sait pas la résoudre. Hein, c'est une équation différentielle ou dérivée partielle. Enfin, vous avez ici une dérivée d'ordre 2. Elle est non linéaire à cause de ce terme-ci. Donc, elle est jolie, mais on n'a pas de solution exacte. Donc, il faut, là encore, recourir à des approximations. Au-delà de l'approximation de champ moyen, il faut des approximations supplémentaires pour résoudre ça. Et une méthode assez standard, c'est de faire une méthode variationnelle, donc de se donner une classe de fonctions d'essai, et puis chercher quelles sont les fonctions d'essai qui conviennent le mieux, qui minimisent l'énergie. Donc une classe de fonctions d'essai qui est très commode à utiliser, au moins quand on a des pièges harmoniques, c'est les gaussiennes. Donc vous prenez une gaussienne en X, une gaussienne en Y, une gaussienne en Z, et vous mettez ça dans un piège qui a donc des fréquences selon X, selon Y, selon Z, mais X, oméga Y, oméga Z. Alors, je ne vais pas le faire dans le cas général, hein, ça prendrait trop de temps, mais prenons simplement un piège isotrope. Donc toutes les fréquences ici, oméga X, oméga Y et oméga Z, égales entre elles. Notre petit oméga. À ce moment-là, le minimiseur, on se doute bien qu'il va lui aussi être isotrope. Donc je lui donne une taille sigma. Et donc dans mon piège, eh bien, j'ai une échelle d'énergie naturelle, qui est le h bar oméga. Ce sera à un coefficient numérique près l'énergie de l'état fondamental du système. J'ai une échelle de longueur pour le même prix, qui est h bar sur m oméga, puissance 1,5. Voilà. Et puis, donc, quand on fait la minimisation, il faut calculer, par exemple, cette énergie-là, en remplaçant psi par la gaussienne. Donc, ça va être une fonction qui va dépendre de la largeur de ma gaussienne sigma. Et là, je vous demande de me croire, quand on fait le calcul, on trouve le résultat qui est écrit ici. L'énergie par particule, donc là, j'ai mis GP pour Gross-Pitayevski, c'est h bar oméga, l'échelle d'énergie dont je parlais, et puis une quantité qui fait intervenir sigma, plus précisément sigma tilde, où j'ai mesuré sigma en unité de longueur naturelle AOH, la taille de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Et cette énergie, elle est très simple. Vous voyez, le premier terme, en 1 sur sigma tilde carré, eh bien, c'est ce qui vient d'ici. Hein, quand je prends le gradient de ma gaussienne, je fais apparaître des sigma tilde dénominateurs. Donc, c'est l'énergie cinétique, c'est logique. C'est en 1 sur sigma tilde carré. C'est l'énergie de confinement qu'il faut payer. C'est le principe négatif de Heisenberg. Si je veux confiner sur une taille sigma tilde, j'ai une impulsion de l'ordre de h bar sur sigma tilde. Donc, une énergie qui sera en 1 sur sigma tilde carré. C'est le premier terme qui est ici. Le second terme, il est tout aussi naturel. Je suis dans un piège harmonique. Donc une énergie qui varie comme R2, donc quand je remplace par ma gaussienne, je vois apparaître sigma tilde carré numérateur. Et puis le dernier terme, lui il faut faire un petit peu plus attention pour le trouver, mais il fait intervenir 1 sur sigma tilde cube, c'est l'énergie d'interaction, hein, c'est le terme qui est écrit ici. il donne 1 sur sigma tilde cube, et au numérateur, eh bien, je vais avoir quelque chose qui va être proportionnel au nombre de particules grand N. Plus précisément, c'est ce que j'ai écrit ici, j'ai écrit comme grand G, où grand G, vous voyez, fait intervenir le nombre de particules grand N, et puis une quantité sans dimension, qui est simplement le rapport de la longueur de diffusion petit a, je vous rappelle, elle est reliée à la force du couplage G par cette relation-là, celle que j'entoure là, petit a divisé par mon échelle de longueur AOH. Voilà, donc tout est bien sous contrôle. Et quand on cherche à minimiser ça, ben, on voit qu'on a deux termes que j'ai écrits en vert qui tendent à augmenter sigma, à rendre le nuage le plus grand possible. C'est d'une part l'énergie cinétique, qui n'a pas envie que mes atomes soient localisés, parce qu'il y a une grosse énergie à payer en cinétique. Et puis l'énergie d'interaction, comme les atomes se repoussent, j'ai pris petit a positif, eh bien, je minimise l'énergie en faisant un gros nuage. Et face à ça, bah, qu'est-ce que j'ai pour contrebalancer ces deux effets-là? Bah, j'ai le piège qui est là pour maintenir les particules entre elles. Voilà. Donc, quand on minimise, on a deux termes qui vont dans un sens, qui tendent à étaler le nuage, et puis un terme qui tend au contraire à le contracter, c'est ce que j'ai écrit ici, compétition entre énergie cinétique et énergie d'interaction d'une part, et puis énergie de piégeage de l'autre part. Alors, on a deux cas limites qui sont simples à identifier. Le premier cas, c'est pas d'interaction, si G égale 0, donc si je supprime l'énergie d'interaction ici, à ce moment-là, j'ai juste un équilibre entre énergie cinétique et énergie de piégeage, je suis dans le cas d'une particule unique dans un piège harmonique, donc à ce moment-là, je retrouve l'état fondamental de cet harmonique, pas de surprise. Si vous regardez ce diagramme-là, là, ici, je vous ai tracé en fonction de la taille sigma tilde, ou sigma, si vous préférez, sigma sur AOH, je vous ai tracé l'énergie, ben, ça correspond à ce pointillé-là, ici, le pointillé vert. Eh bien, le minimum est obtenu pour sigma tilde égale 1, c'est-à-dire sigma égale AOH. Et puis, l'autre cas, donc je ne raye plus ça, l'autre cas, c'est quand les interactions sont fortes, donc G est grand devant 1, j'ai beaucoup d'atomes, par exemple, ou j'ai un petit a qui est très grand, à ce moment-là, c'est l'énergie cinétique qui joue un rôle négligeable, ici, et mon état d'équilibre se fait essentiellement entre l'énergie d'interaction, le terme en 1 sur sigma cube ici, et puis l'énergie de piégeage en sigma carré ici. Et vous pouvez voir, par exemple, j'ai tracé ici ce qui se passe pour G égale 16, 16 c'est grand devant 1, hein. Et vous avez en bleu la somme des trois énergies, ces trois choses-là, et le pointillé rouge ici, c'est ce qui se passe quand je néglige celui-là. Et vous voyez qu'effectivement, les deux courbes sont à peu près identiques, et le minimum est toujours à peu près au même endroit, ici, de l'ordre de 2. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce minimum? Eh bien, si je cherche à équilibrer du sigma tilde carré ici et du 1 sur sigma tilde cube là, eh bien, le minimum il est atteint quand les deux termes sont à peu près égaux. Donc, ça fait sigma 5 égale grand G, un facteur numérique près. Et si vous préférez, ça veut dire que sigma, ou sigma tilde, est proportionnel à n puissance 1 cinquième. Voilà. Donc, quand on est dans ce régime qu'on va appeler Thomas Fermi dans un instant, eh bien, dans ce régime de grand nombre d'atomes, les tailles du nuage à l'équilibre augmentent. Plus je mets d'atomes, plus ça augmente. Et ça augmente comme la puissance 1 cinquième du nombre d'atomes. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'on s'est convaincu que pour les grands nombres d'atomes, l'énergie cinétique, on pouvait la négliger. Finalement, tout ce qui était intéressant, c'était la compétition entre le piège qui tend à confiner et puis les interactions qui tendent à repousser. Eh bien, on peut simplifier un petit peu la résolution de notre équation de Gross-Pietrzky. Je vous avais dit tout à l'heure qu'elle est difficile à résoudre, cette équation, parce que ça fait intervenir à la fois des dérivés ici et puis de termes non linéaires là. Mais si je sais que l'énergie cinétique joue un rôle négligeable, là, ça devient beaucoup plus facile, puisque je peux oublier ce Laplacien là. Et on obtient la chose suivante. Il faut que je me fasse de la place. Donc, l'approximation de Thomas Fermi. Voilà, ça consiste à prendre ce qui est écrit là-bas. Et puis simplement négliger ce terme-ci. Et donc, je peux en fait simplifier après par psi de R, puisque maintenant j'ai une équation qui est purement algébrique en psi de R. Hein. J'ai psi ici, psi ici, psi ici. Et j'obtiens donc quelque chose qui va être en U de R, plus donc NG, je vais même l'écrire tout de suite avec rho, donc G fois rho de R. Égale le potentiel chimique mu c. Donc, dans cette approximation-là, eh bien, la forme d'équilibre du condensat est obtenue tout de suite, c'est, on va l'écrire, g rho de r égale mu c moins U de R. Et donc je sais tout de suite, connaissant mon potentiel de piégeage, je connais tout de suite la forme de ma densité. Alors attention, quand j'écris ça, il faut que je sois un tout petit peu plus précis. En fait, la manière correcte de l'écrire, c'est G rho de R égale le maximum entre 0, la densité ne peut pas être négative, hein, donc c'est le maximum entre 0 et mu c moins U de R. Donc c'est ça la bonne manière d'écrire les choses. Je ne le mettrai pas tout le temps comme ça, mais cette formule-ci est valable tant que le résultat dans le membre de droite est positif, et puis une fois que ce résultat s'annule, bien après ma densité est nulle, et là où le potentiel U dépassera mu c, c'est-à-dire là où ça sera négatif, eh bien ma densité sera strictement nulle. Hein, donc la version mathématique correcte, c'est ce max entre 0 et mu c moins U. Mais bon, écrire un max à chaque fois, c'est un petit peu long, donc je ne le ferai pas. Alors on peut vérifier que cette approximation tient tout à fait la route. Ici, vous avez un résultat qui a été obtenu il y a assez longtemps par Dalfovo et al. Donc là, ils se sont mis dans le cas où Na sur AOH égale 100, donc on est vraiment dans le régime d'un grand nombre d'atomes. Et puis vous avez sur ce graphe, eh bien, à la fois la solution exacte, donc ça c'est une résolution numérique de l'équation qui est écrite là-bas à droite, et puis le pointillé, eh bien, c'est cette solution mu c moins u de r. Quand u est harmonique, ici, bah, c'est donc une constante moins quelque chose qui varie comme r2, c'est donc une parabole inversée, comme cela, jusqu'à ce que ça s'annule, donc jusqu'au point ici où la parabole devient 0. Donc c'est ce qui est écrit ici, rho 0 fois 1 moins r2 sur rtf carré, c'est rien d'autre que cette chose-là avec u quadratique. Et on retrouve aussi que la valeur du rayon, qu'on appelle rayon de Thomas Fermi, le point où ça s'annule, c'est pas moi, non, d'accord, varie comme n puissance 1 cinquième, c'est le n puissance 5e que on avait tout à l'heure. Alors, j'aimerais continuer, si c'est possible, en parlant de ce qui se passe dans un piège anisotrope, parce que ça va jouer un rôle important quand on va ensuite passer au gaz dipolaire. Ce qui se passe dans un piège anisotrope, donc à ce moment-là, j'ai trois fréquences différentes, en X, en Y et en Z, et donc ma limite de Thomas Fermi, qui était encore écrite au tableau, ici, G rho égale UC moins U de R, me permet de déterminer les rayons de Thomas Fermi, l'endroit où la densité s'annule selon les différents axes X, Y et Z. Si je prends par exemple l'axe X, qui est ici, celui-ci, eh bien, si je m'intéresse le point où ça s'annule ici, ou le point où ça s'annule de ce côté-là, eh bien, ça va être quand mu c sera égal à 1/2 de m oméga x carré rx carré, hein, c'est la définition du rayon de Thomas Fermi rx, et puis je vais faire la même chose selon les deux autres axes, y et z, donc comme à chaque fois j'ai la même quantité à gauche, qui est le potentiel chimique, je vais avoir oméga x rx égale oméga y ry égale oméga z rz. Ce qui veut dire que pour ces condensats avec des interactions de contact, eh bien, j'ai un rapport très simple entre le rapport d'aspect du piège qui contient les atomes et puis le rapport d'aspect du condensat lui-même. C'est-à-dire que le rapport Rx sur Rz est égal au rapport des fréquences considérées avec un signe moins, une puissance moins 1. C'est-à-dire que Rx sur Rz, c'est oméga z sur oméga x. Vous allez voir que dès qu'on a affaire à un piège avec des interactions dipolaires, du fait de leur longue portée, ceci n'est plus vrai. Alors, un mot quand même sur les interactions de contact attractives. Je vous ai dit que je n'allais pas en parler beaucoup, mais je voudrais quand même le signaler pour être complet. Supposons maintenant que petit a soit négatif, c'est-à-dire que les atomes aient tendance à s'attirer les uns les autres. À ce moment-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec mon ansatz gaussien reste valable. Je peux toujours mettre une gaussienne ici, une gaussienne là. Simplement, ce coefficient-là sera négatif, au lieu d'être positif comme tout à l'heure. Ce qui veut dire que maintenant, les termes qui tendent à augmenter la taille du condensat, eh bien, il n'y en a plus qu'un, c'est l'énergie cinétique. Et la pauvre énergie cinétique, elle doit lutter contre deux termes qui tendent à l'effondrement. Le premier, c'est le piège, il est dans son rôle, lui, il est là pour confiner tout le monde. Et puis, j'ai l'énergie d'interaction qui, maintenant, avec son G négatif, ici, tend également à diminuer sigma tilde. Et je la qualifie de pauvre, l'énergie cinétique, parce qu'elle a beaucoup de mal à lutter contre ces deux choses-là à la fois, puisque à longue distance, ben c'est sûrement lui qui va dominer, c'est le sigma tilde carré qui va être plus grand que les autres, qui tendent vers zéro. Et puis à courte distance, eh bien, 1 sur sigma tilde cube, il gagne par rapport à 1 sur sigma tilde carré. Donc l'énergie cinétique ici, elle ne va pas gagner ni à courte distance ni à longue distance. Alors si G n'est pas trop grand, il peut y avoir des valeurs intermédiaires de sigma tilde où j'ai un minimum local, donc des condensats attractifs avec des petits nombres d'atomes, ça peut exister, mais dès qu'on augmente trop le nombre d'atomes, eh bien, la pauvre énergie cinétique ne peut rien faire face à ces deux compétiteurs et le condensat s'effondre sur lui-même. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas parler beaucoup des condensats avec des A négatifs dans ce cours, parce que finalement, dès qu'on a des grands nombres d'atomes, ils ne sont pas stables. Voilà, donc ça termine ce que je voulais vous donner comme rappel. Et je passe maintenant à la transposition de tout ce qu'on vient de voir pour un gaz dipolaire. Alors, pour un gaz dipolaire, eh bien, comme je disais, on a affaire à une interaction non locale. C'est-à-dire que si je prends toujours mes atomes dans un piège, mais maintenant ils ont un moment magnétique, les dipôles sont alignés selon l'axe Z. Eh bien, on a vu tout à l'heure la structure de l'énergie dipôle-dipôle, mu0, mu2 sur 4 pi 3, 1 moins 3 cos carré θ. Cette énergie dipôle-dipôle, je vais la paramétrer un petit peu différemment, c'est juste un changement de variable. Hein. Je vais introduire GDD égale 1 tiers de mu0, mu2. Donc c'est le numérateur ici, je vais l'appeler GDD, à un facteur 1 tiers près. La raison du 1 tiers va paraître... dans la suite, ça simplifie ensuite beaucoup les comparaisons entre GDD et puis le petit g qui est lié aux interactions de contact. GDD est relié à la longueur de diffusion dipôle-dipôle, enfin la longueur dipôle-dipôle que j'avais introduite la dernière fois, ADD, tout comme j'ai g égale 4 pi h bar 2 A sur M, et bien j'ai GDD qui est 4 pi h bar 2 ADD sur M. Donc comparer GDD et puis g, c'est exactement comme comparer ADD et puis A. Hein, c'est les mêmes rapports. C'est ce que j'ai écrit ici, epsilon DD, ce que j'appelais YDD, qui est le rapport entre les forces des deux couplages, c'est la même que les rapports des petits a. Et je peux effectivement comparer GDD et G, ça ne saute peut-être pas aux yeux quand on le voit, mais en fait, ils ont bien la même unité, c'est-à-dire que leur unité, c'est du joule mètre cube. Là, c'est bien clair, puisque ici, j'ai GDD sur R cube, donc sur un volume, c'est égal à une énergie, donc GDD lui-même, c'est l'énergie fois le volume. Et petit g, ben c'est la même unité parce qu'une distribution de Dirac, je vous rappelle que c'est une distribution de Dirac à trois dimensions, sa dimension c'est 1 sur R cube, 1 sur un volume, puisque l'intégrale de la distribution de Dirac sur des trois R est égale à 1. Donc g et gdd ont bien la même unité, donc ça a un sens de les comparer. Ce que j'ai écrit ici, c'est bien un nombre sans dimension. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je vais finalement remplacer mon interaction de contact qui était écrite ici par une interaction de contact qui décrit les interactions van der Waals, plus quelque chose qui sera l'interaction dipolaire. Alors, quand on fait ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très différent. Hein. Donc, je rajoute ici plus le 3 sur 4 pi. Je vais peut-être me faire un petit peu de place au-dessus. Je vais écrire mon dénominateur un peu plus... Voilà, 3 sur 4 pi GDD. Je diminue la taille de cette intégrale aussi. Sur R moins R prime au cube. 1 moins 3 cos carré θ. 1 moins 3 cos carré θ. Ou θ, bon, il réfère à l'axe R moins R prime. Et puis, donc, quand j'ajoute ce V de R moins R prime là-dedans, donc quand je calcule cette double intégrale là, alors là maintenant je vais devoir conserver une double intégrale, mais je vais la mettre sous une forme qui est une forme un peu agréable, alors que je ne me trompe pas dans les préfacteurs. Je vais garder le 1,5 et puis je vais écrire ça sous la forme d'un potentiel qui est donc le potentiel que j'ai écrit ici, le potentiel que j'appelle le potentiel de champ moyen grand phi dd de R psi carré de R des 3 R. Alors évidemment, toute la question, c'est qu'est-ce que je mets dans le phi dd. Donc ce que je dois mettre dans le phi dd, ben, c'est l'effet de cette chose-là, là, de ce que j'ai ajouté avec mon interaction dipôle-dipôle. Et donc, mon phi dd, alors que je ne vais pas me tromper, phi dd de R, c'est donc une intégrale sur R', puisque j'étais parti d'une double intégrale sur R'. Donc l'intégrale sur R, je l'ai ici, puis l'intégrale sur R', je la cache dans le phi dd. Donc c'est une intégrale sur R'. J'ai un grand N. C'est c'est le grand N, enfin oui, ici j'avais n moins 1 sur 2, mais j'ai divisé par n, donc il me reste un grand N. Et ensuite, donc, j'ai mon potentiel dipôle-dipôle, VDD de R moins R prime, psi de R prime en modulo carré, des 3 R prime. Voilà. Donc si vous préférez, vous reconnaissez toujours la densité, N fois psi c'est la densité, donc je pourrais écrire ça, VDD de R moins R prime fois ma densité rho de R prime des 3 R prime. Alors, ça, c'est encore un peu compliqué, parce que, bon, vu la structure de VDD, c'est pas simple à manipuler. Il y a une écriture qui est très agréable. Je vais pas prouver comment est-ce qu'on y arrive, mais encore, les calculs sont faits dans les notes. C'est des manipulations sur les intégrales. Donc, je mets juste le résultat. Après manipulation de l'intégrale, eh bien, ce phi dd, là, je pense, il doit être écrit là-haut aussi, ce phi dd de R, je peux l'écrire sous la forme moins gdd, donc c'est le coefficient qui était ici, hein, moins gdd fois, alors un premier terme qui est un terme local, donc lui il est sympathique, il sera facile à traiter, rho de R, puis un terme qui est non local, qui fait intervenir un deuxième potentiel dipolaire que j'appelle auxiliaire petit phi. Voilà. Alors maintenant, nouvelle question, qu'est-ce qui se cache derrière petit phi? Mais petit phi a une expression simple. Le petit phi qui est écrit ici, à ne pas confondre avec le grand phi de dd, le petit phi de R, c'est simplement 1 sur 4 pi, l'intégrale de rho de R prime sur module de R moins R prime des 3 R prime. Voilà, donc le petit phi ressemble beaucoup à de l'électrostatique, si vous voulez. D'ailleurs, il satisfait à l'équation de Poisson, c'est-à-dire que laplacien de phi, quand on prend laplacien bien sûr, ça fait moins 4 pi delta, donc ça fait moins rho de R. C'est l'équation de Poisson bien connue en électrostatique. Donc cette forme-ci, elle est quand même pas trop compliquée à manipuler, hein, puisque il faut prendre la dérivée seconde de phi par rapport à l'axe Z, l'axe des dipôles, mais phi lui-même est simple à calculer, puisque c'est une solution de l'équation de Poisson pour le rho de R qui est là. Alors ça reste une équation qui est non locale, hein, il n'y a pas de mystère, la non-localité est essentielle, mais la contribution des différents termes n'est pas trop compliquée à estimer. Alors maintenant, on va se placer dans la limite des grands nombres d'atomes, et je vais regarder ce que donne l'approximation de Thomas Cermi pour ce gaz dipolaire. Donc, mon équation de Gross-Pitayevski, ben, une fois que j'ai ajouté le phi dd ici, eh bien, dans l'équation de Gross-Pitayevski qui résulte de la minimisation avec le potentiel chimique comme paramètre de Lagrange, eh bien, c'est la même équation de Gross-Pitayevski que celle que j'avais avant, mais j'ai simplement un terme en plus qui est le terme phi dd ici. Le déroulement du calcul est exactement le même. Et exactement comme pour un condensat usuel, eh bien, pour trouver la solution de cette équation, si on n'a pas envie de se tourner vers un ordinateur, eh bien, on fait une approximation dans la limite des grands nombres d'atomes, c'est-à-dire qu'on va négliger le terme d'énergie cinétique, on va négliger ce terme-ci. Donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'une équation qui est algébrique. Je peux simplifier par le psi qui est là aussi. Et j'ai simplement U plus G rho plus phi dd égale mu C, avec le phi dd qui était ce que j'ai écrit au tableau là-bas, et qui est égal donc à l'intégrale de VDD de R moins R prime, rho de R prime. Alors c'est une équation algébrique, mais elle est quand même moins simple que ce que j'avais tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas pouvoir la résoudre comme ça, parce que c'est une équation qui est non locale. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste là-dessus, le phi dd de R ne dépend pas que de rho de R, mais il dépend de tous les rho de R prime dans tout l'espace. Donc elle reste difficile à résoudre analytiquement, mais néanmoins, au moins elle est plus différentielle. C'est simplement une équation algébrique intégrale. Alors, quand on voit ça, en fait, on peut être un peu découragé, on peut se dire, oui, ça va vraiment être compliqué. En fait, il y a vraiment un résultat qui est vraiment remarquable, qui a été obtenu par Odell, Giovannazzi et Berlein, là. C'est un résultat il n'est pas facile à montrer. Je vais enlever ce trait. C'est un résultat qui n'est pas facile à montrer. C'est des calculs qui sont compliqués. Mais l'énoncé de ce résultat est simple. C'est le suivant. C'est que quand vous prenez un piège harmonique, donc si je prends un U de R qui est harmonique ici, donc quadratique par rapport aux variables X, Y et Z, donc prenons trois axes propres, oméga X, oméga Y et oméga Z, et les dipôles polarisés selon un des axes du piège, je préfère prendre Z, c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc je reste avec un axe Z, et bien à ce moment-là, on peut montrer que la solution de plus basse énergie, le ρ de R, reste une parabole inversée. C'est-à-dire que ça peut continuer toujours à s'écrire sous une constante, moins quelque chose qui est quadratique vis-à-vis des coordonnées x, y, z, avec des rayons rx², ry² et rz². Donc, ce résultat qui était évident ici, hein, sur cette expression-ci, c'est évident que si je mets u de r quadratique, ρ de r sera quadratique, eh bien ça reste vrai même quand on a le terme non local qui est écrit là-bas. Et ceux qui sont versés dans les mathématiques, je vous encourage à aller regarder l'article de Odell et collaborateurs. C'est vraiment très très beau résultat. Ceci étant, il y a quand même un point qui est différent par rapport à ce que j'avais écrit ici. Ici, il est clair que puisque la somme du potentiel et de la densité est constante, les lignes isopotentielles coïncident avec les lignes isodensité. Ça, ce sera plus vrai quand on rajoutera le potentiel dipôle-dipôle, c'est-à-dire que dans le résultat obtenu par Odell, Giovannazzi et Eberlein, eh bien, il n'y a plus coïncidence entre les équipotentiels et les lignes isodensité, et c'est ça qui fait toute la richesse du problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir un piège qui est isotrope, par exemple, et un nuage qui ne le sera pas. On en aura un exemple dans un instant. Alors, à quoi ressemble l'énergie dans l'approximation de Thomas Fermi? Comment est-ce qu'on la calcule, cette énergie? Eh bien, prenons un piège à symétrie cylindrique autour de l'axe Z, pour simplifier les choses. Donc, j'ai un piège qui est donc à une fréquence oméga X égale oméga Y, que je vais noter oméga perp, et puis une fréquence selon Z, oméga Z. Ma distribution à l'équilibre va également respecter cette symétrie cylindrique, donc j'aurai un certain rayon R perp et un certain rayon RZ dans le plan et selon l'axe Z. Je suis à l'approximation de Thomas Fermi, donc je néglige l'énergie cinétique, je ne garde que l'énergie de piégeage et l'énergie d'interaction. L'énergie de piégeage, elle se calcule facilement. Elle, c'est toujours l'intégrale de 1,5 de m oméga de R2 fois psi de R au carré. Donc quand vous faites le calcul, vous trouvez des choses qui sont proportionnelles à Rx carré, enfin R perp carré et Rz carré, il n'y a pas de surprise. L'énergie d'interaction, elle est nettement plus compliquée à calculer. Et je ne vais pas vous donner ici la formule complète. Elle est dans les notes, c'est l'équation 51 pour ceux qui veulent aller la voir. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est sa structure. Sa structure, c'est quelque chose qui est proportionnel au nombre d'atomes, pas de surprise. L'énergie d'interaction par particule est proportionnelle à la densité locale, donc au nombre d'atomes. Nombre d'atomes divisé par le volume du gaz, là encore, c'est la densité qui m'intéresse. Donc c'est le volume, c'est proportionnel au produit R perp carré, taille dans le plan transverse ou RZ. Et puis j'ai ce terme-là, qui va nous occuper dans toute la suite du cours, qui est petit g, la force des interactions de contact, moins gdd, la force des interactions dipôle-dipôle, fois une fonction f de kappa. Et c'est cette fonction f de kappa qui est à l'équation 51, qui est une formule à coucher dehors, avec plein de racines carrées, de arctangentes hyperboliques et des choses comme ça. Cette fonction f de kappa, donc je ne vous la donne pas, enfin je vous la donne dans les notes, mais je ne l'écris pas ici, je vous donne simplement à quoi elle ressemble, cette fonction f de kappa. Kappa, déjà, qu'est-ce que c'est? Kappa, c'est simplement le rapport des rayons R perp sur RZ. À ce stade, je ne le connais pas, ce rapport des rayons, hein, puisque je connais le rapport des fréquences entre oméga perp et oméga Z, mais comme je vous l'ai dit, les lignes équipotentielles ne sont pas égales aux lignes isodensité, donc je ne connais pas ce rapport des rayons. Il va falloir que je minimise mon énergie et que je trouve à la fois R perp, RZ, et donc le rapport des rayons R perp sur RZ. Mais cette fonction f de kappa, voilà à quoi elle ressemble. Donc si vous prenez la formule qui est écrite à l'équation 51 et puis que vous la tracez, c'est ce que j'ai fait ici, voilà à quoi elle ressemble. Quand kappa est très petit devant 1, kappa très petit devant 1, ça veut dire donc R perp très petit devant RZ, donc c'est un nuage très allongé selon l'axe Z. D'accord ? Tout petit rayon et grande élongation selon Z. F de kappa tend vers 1. Quand je prends un nuage sphérique, F de kappa vaut 0. Et quand je prends un nuage qui est au contraire très aplati, un rayon dans le plan beaucoup plus grand que l'extension selon Z, eh bien, à ce moment-là, F de kappa tend vers moins 2. Et puis vous avez ici un coefficient numérique aussi alpha qui vaut 15 sur 28 pi. Alors donc, vous voyez cette distinction entre nuage allongé, nuage sphérique et nuage aplati. Alors j'ai aussi mis ici deux adjectifs, prolate et oblate. Alors je me suis demandé s'ils existaient vraiment ces adjectifs, ils existent certainement en anglais. Quand on va regarder le dictionnaire de l'Académie française ou les dictionnaires type Robert, ils n'y figurent pas. Ceci étant, quand on regarde le Wikictionnaire, qui normalement est le Wikictionnaire français, ben ils mettent que prolate, c'est un ellipsoïde de révolution de forme allongée selon l'axe Z. Donc je ne sais pas si vraiment j'ai le droit de les utiliser ou pas, ces adjectifs. Donc je parlerai plutôt de allongé ou aplati. Mais en tout cas, si vous voyez prolate ou oblate dans les notes, c'est ça que ça veut dire. Donc ce qui est important, c'est quoi? Eh bien, ce qui est important, comme je disais, c'est ce crochet-là, ici. Ce crochet qui va donc pouvoir varier entre, quand f de kappa, je vous dis, varie entre 1 et moins 2, ce crochet va pouvoir varier entre g moins gdd, dans le cas allongé. Donc là, il y aura une compétition, si vous voulez, entre les interactions de contact et l'interaction dipolaire, et je figure avec des signes opposés. Et puis au contraire, g plus 2 fois gdd, quand je suis dans ce cas-là, où là, il travaille main dans la main pour donner la même contribution de même signe. Voilà. Et tout va se jouer là-dessus, sur le fait que selon le rapport des rayons que je prends, eh bien, j'ai pas la même nature de compétition entre les interactions dipolaires et les interactions de contact. Voilà. Donc, passons au paragraphe 3, donc, qui est cette stabilité globale d'un condensat dipolaire. Donc, comme je disais, je me limite à des pièges qui ont la symétrie de révolution, mais ces pièges peuvent être allongés ou au contraire aplatis. Les dipôles seront toujours polarisés selon Z, donc mes dipôles sont toujours comme ça. Alors, un premier phénomène que j'aimerais décrire, c'est la magnétostriction. De quoi s'agit-il? Donc là encore, ça a été prédit par Eberlein et al. Donc je pars de mon potentiel de piégeage, donc comme j'ai dit, symétrie de révolution, pulsation oméga perp dans le plan XY, oméga Z selon Z. Ma solution de Thomas céramique a également la symétrie de révolution, mais avec des rayons R-perp et RZ qui ont un rapport que je note kappa, R-perp sur RZ, qui n'a plus de raison d'être égal à oméga Z sur oméga perp. Hein, c'est, dans le cas des interactions de contact, je vous ai dit tout à l'heure que l'anisotropie du piège et l'anisotropie du nuage étaient les mêmes, donc kappa était égal à lambda, mais maintenant, dans la présence d'interactions dipolaires, ce n'est plus le cas. Et plus précisément, pour des interactions dipolaires, kappa est toujours plus petit que lambda. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, prenons l'exemple d'un piège isotrope. Là, je vous mets un résultat qui est un résultat obtenu par Eberlein et al. C'est toujours le même groupe, hein, Giovannazzi, Odell, Eberlein, où vous avez tracé, en fonction du rapport epsilon dd, c'est-à-dire le rapport force des interactions dipolaires sur force des interactions de contact, vous avez ici tracé la valeur à l'équilibre, donc la valeur qui minimise l'énergie, pour le rapport R-perp sur RZ. Donc, mon piège initialement rond, lambda égale 1 ici, c'est cette ligne-là. Je peux surligner, voilà. Donc, quand je prends lambda égale 1, donc un piège isotrope, et que je prends GDD égale 0, pas d'interaction dipolaire, je trouve kappa égale 1. C'est encore une fois, c'est le même résultat que celui que j'ai déjà énoncé plein de fois. Dans un piège isotrope, pas d'interaction dipolaire, seulement d'interaction de contact, j'ai identité entre les isopotentiels et les isodensités, donc mon nuage est également isotrope. Mais je vois que quand je vais augmenter les interactions dipolaires, quand le GDD qui est là va prendre des valeurs non nulles, eh bien lambda reste égal à 1, mais kappa, c'est ce que je trace ici, devient plus petit que 1. Ce qui veut dire, si kappa est plus petit que 1, que R perp devient plus petit que RZ, donc que mon nuage s'allonge comme ça. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la magnétostriction? C'est la définition de électro-magnétostriction, c'est l'application donc, de force magnétique sur le système vient déformer mon système. En général, c'est un terme qu'on emploie plutôt pour des solides, mais là, on l'emploie pour un gaz, et c'est tout à fait pertinent. Et pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là que ça se passe? Eh bien, parce que on est face à un phénomène que j'ai déjà décrit, c'est que quand je prends mes dipôles et que je les mets dans cette direction-là, l'un derrière l'autre, eh bien, je diminue l'énergie, alors que quand je les mets côte à côte, ça augmente l'énergie. Donc, toute chose égale par ailleurs, j'ai intérêt à prendre quelques dipôles qui étaient comme ça, pour les mettre comme ça, et ça va m'abaisser mon énergie. D'où la génération d'un nuage, ici, qui est de plus en plus allongé au fur et à mesure où j'augmente la force des interactions dipolaires par rapport à la force des interactions de contact. Et ça, ça se voit expérimentalement. Ça a mis du temps à être vu, parce que initialement les gens avaient beaucoup de mal à voir ces nuages dipolaires in situ, c'est des petits objets. Donc là, c'est des observations qui ont été faites. Les premières ont été faites en 2018, ça c'est une publication qui date de l'an dernier, où vous avez ici des atomes de dysprosium, donc vous en avez 15 000 à peu près. Vous les mettez dans un piège qui a la symétrie de révolution autour de l'axe Z. L'axe Z est perpendiculaire au plan du tableau, là. Ici, le champ magnétique extérieur est lui-même orienté selon Z, donc perpendiculaire au plan du tableau, et à ce moment-là, la distribution dans le plan XY est parfaitement isotrope. Le piège lui-même était isotrope dans le plan XY, donc la distribution est isotrope. Et pour passer de l'image de gauche à l'image de droite, ce qu'ont fait les chercheurs de Stuttgart, c'est le groupe de Tillmann-Pfau, c'est qu'ils ont fait tourner leur champ magnétique extérieur pour mettre les dipôles maintenant alignés avec l'axe Y. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez qu'aussitôt le nuage réagit, le nuage se contracte selon X, s'allonge un petit peu selon Y, de manière à avoir des dipôles qui sont maintenant comme ceci, les uns par rapport aux autres, donc minimiser l'énergie. Voilà, donc ça c'est une très belle illustration d'un nuage in situ avec ce phénomène de magnétostriction. Alors jusqu'où on peut aller avec la magnétostriction? Si on commence à trop contracter dans le plan XY, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je reviens toujours à cette expression pour mon énergie, là. Hein, ce alpha qui valait 15 sur 28 pi, ça c'est pas très important. La densité, grand N sur le volume du système, R perp carré RZ, et puis ce crochet, là. Si ce crochet est négatif, hein, s'il devient négatif, on va voir comment, eh bien, clairement, à ce moment-là, je serai un petit peu dans la même situation que ce qui se passait pour mes interactions de contact avec une longueur de diffusion négative. Je vais avoir, pour minimiser l'énergie, si cette chose-là est négative, je vais avoir intérêt à faire des rayons de plus en plus petits pour avoir mon énergie qui va tendre vers moins l'infini. Donc, si ce crochet-là est négatif, mon gaz peut atteindre une énergie arbitrairement basse en se contractant, en s'effondrant sur lui-même. Alors, je rappelle que cette fonction F de kappa ici varie entre plus 1 et moins 2, donc que le crochet varie entre G moins GDD et G plus 2 GDD. Donc ici, il n'y a pas de souci, c'est toujours positif. Mais en revanche, là, eh bien, je vois que cette chose-là peut devenir négative. Dès que GDD devient plus grand que G, donc dès que les interactions dipôle-dipôle deviennent plus grandes que les interactions de contact, mesurées avec GDD et G, eh bien, j'ai cet effondrement. Et c'est pour avoir ce critère très simple, GDD plus petit que G, GDD plus grand que G, qu'on avait mis tout à l'heure ce coefficient 3 sur 4 pi devant GDD. Si on n'avait pas mis la relation ici, ce serait plus compliqué, il y aurait des 4 pi sur 3 qui traîneraient. Donc c'était ça l'intérêt du facteur numérique un petit peu compliqué qui intervenait dans la définition de GDD. C'est pour que maintenant, eh bien, on ait simplement à comparer des rapports plus grands que 1 ou plus petits que 1. Donc le risque d'implosion, il va se produire quand GDD sera plus grand que G. Tant que GDD est plus petit que G, il n'y a pas de risque. Ce crochet-là sera toujours positif, quel que soit le rapport d'aspect. Mais dès que GDD dépasse G, là, danger. Alors, là encore, je reviens vers le trio Giovannazzi, Odell et Berlein pour leurs articles initiaux, donc, qui ont date maintenant de presque 20 ans. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Tout à l'heure, je vous avais montré juste la partie de gauche ici de ce diagramme. Mais voilà ce qu'ils ont obtenu quand ils font varier epsilon dd, c'est rapport GDD sur G, voilà ce qu'ils ont obtenu pour le rapport des rayons kappa, R perp sur RZ, pour différents pièges. Commençons par un piège qui est un piège déjà en forme de cigare, pour commencer. Donc un piège qui a un lambda égale 0,2, donc un oméga Z 5 fois plus petit que l'oméga perp. À ce moment-là, ce que vous voyez, c'est que quand vous suivez cette ligne-là, ici, tant que epsilon dd est plus petit que 1, il n'y a pas de problème, et puis dès que ça dépasse 1, aussitôt, vous rentrez dans une zone instable, là. Donc, ça veut dire que le gaz s'effondre sur lui-même. Donc là, si vous partez d'un piège cigare, il ne faut pas avoir trop d'interactions dipolaires, sinon vous perdrez tous vos atomes. Bon, je reviendrai sur « vous perdrez tous vos atomes » dans un cours ultérieur. Il y a des effets au-delà du champ moyen qui peuvent nous sauver. Mais bon, pour l'instant, on dit qu'on va les perdre tous. Si maintenant, vous prenez un piège isotrope, par exemple, c'est celui que je considérais tout à l'heure, le lambda égale 1, donc là je vais encore le surligner. Le piège qui est isotrope au départ, il se contracte, c'est la magnétostriction dont je vous parlais. Je peux dépasser légèrement 1 et rentrer dans une zone métastable que je vais vous décrire dans un instant. Mais à 1.05, hop, là encore, c'est fini. Mes atomes, mon gaz s'effondre. Et puis, si je vais encore un petit peu plus haut, là, lambda égale 2, là, à ce moment-là, ben, pour lambda égale 2, donc je pars d'un piège qui est aplati, mais modérément aplati, simplement un facteur 2 entre les fréquences, là, entre les fréquences oméga z et puis oméga perp, et bien à ce moment-là, au début, tout se passe bien. Voilà, est-ce que ça va écrire là ? Oui, au début, tout se passe bien. Je rentre dans une zone métastable qui me permet d'aller jusqu'à 1.3, 1.4, donc GDD peut être 30% plus grand que la force des interactions de contact, et puis après, de nouveau, catastrophe, je rentre dans le régime instable. Voilà. Alors, ça donne envie d'aller vers des pièges de plus en plus aplatis, et effectivement, quand on dépasse une certaine valeur pour le rapport entre les fréquences, oméga z et oméga perp, au-delà de 5, à ce moment-là, l'état métastable survit. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple lambda égale 9, comme ici, là vous allez pouvoir continuer comme ça jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre votre coefficient petit g, puisque en pratique c'est ça qu'on fait, c'est qu'on change le coefficient petit g grâce à une résonance de Feshbach, et vous allez pouvoir mettre petit g carrément à 0, et ce sera toujours bon. Donc là, votre piège sera stable, même s'il y a plus d'interaction de contact pour contrebalancer les interactions dipôle-dipôle. Alors attention, ce que je vous décris ici, c'est une zone qui est métastable. Hein. Et ici, vous avez un tracé donc, que j'ai emprunté dans un article du groupe de Timan Fao, où vous avez tracé les lignes isoénergie en fonction donc, du rayon transverse R-perp et du rayon longital RZ. Pardon. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que cette solution-là qui est métastable, ça correspond au minimum local qui est ici, c'est-à-dire un rayon R-perp sur la taille de cette harmonique qui vaut à peu près 10, hop là, pourquoi ça fait ça ? Voilà, qui vaut à peu près entre 5 ou 10, et puis un rayon RZ qui est de l'ordre de 1, et c'est cette zone-là. Mais néanmoins, il y a toujours la zone qui est instable ici, qui figure là. Cette zone-là, elle, correspond à une énergie qui est très grande et très négative. Donc, ce point-ci, il est fragile quand même. Je peux toujours imaginer que si j'ai une fluctuation dans mon système, R-perp va se contracter, je vais passer au-dessus de cette barrière locale, là, et puis après, mon nuage va s'effondrer. Donc, les formes dont je vous parle ici, pour les nuages, sont des formes qui sont seulement métastables, ce n'est pas l'état fondamental du système. Dès que GDD est plus grand que G, j'ai toujours intérêt à former quelque chose qui est très, très concentré selon XY, très long selon Z, et ça me fait donne des énergies très grandes et très négatives. Et par ailleurs, mais ça, ce sera plutôt pour la semaine prochaine, c'est la métastabilité dont je vous parle, c'est une métastabilité qui est globale. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe, si je change un petit peu mon rayon, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds de l'énergie ? Mais si je reprends un nuage très aplati comme celui-ci, je ne vous dis rien d'éventuelles instabilités locales. Et par instabilité locale, j'entends, par exemple, une déformation de la surface qui me ferait apparaître une modulation spontanée comme celle-ci. Et on verra qu'effectivement, ça aussi, ça peut être une source d'instabilité d'avoir des modulations locales qui apparaissent. Donc, c'est une première approche sur la stabilité de ces objets, mais c'est pas la fin de l'histoire. Alors, ce diagramme de stabilité a été exploré par le groupe de Timan Fao en particulier. Ce sont des expériences qui initialement étaient faites avec du chrome, elles ont été refaites après avec des atomes plus magnétiques, mais les premières expériences ont été faites avec le chrome, donc c'est celle-là dont je vais vous parler. C'est des expériences qui datent de 2008-2009. Donc pour le chrome, petit ADD est relativement petit, c'est simplement 15 rayons de bord, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener petit a, la longueur de diffusion liée aux interactions en ondes S, au voisinage de ce ADD, grâce à une résonance de Fano-Feshbach, et donc on va se placer dans un régime où le paramètre epsilon DD est de l'ordre de 1. Alors commençons par un piège très aplati, lambda égale 10, donc ce régime métastable là. Eh bien, effectivement, les chercheurs de Stuttgart l'ont bien vu, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'un nuage avec un petit a, longueur de diffusion pour l'onde S, grande, devant ADD. ADD, je vous dis, c'est 15 à 0. Donc sur ce diagramme, c'est ici, ADD. Voilà, 15. Ça, c'est ADD. Donc ils sont partis d'une valeur qui était grande pour petit a, grande devant ADD, donc là ils avaient un condensat parfaitement stable, et ils ont pu baisser la longueur de diffusion petit a, et leur condensat a survécu dans toute cette zone de longueur de diffusion petit a entre 0 et puis ADD. Une fois que c'est devenu négatif, là, à ce moment-là, il y a l'effondrement que je vous ai décrit tout à l'heure pour les A négatifs, donc là, ça devient critique. Mais toute cette zone-là, qui correspond à des epsilon dd supérieurs à 1, qui tendent vers l'infini quand petit a tend vers 0, puisque petit a est au dénominateur ici, eh bien, toute cette zone-là, ils ont pu la voir grâce à la métastabilité pour un piège très aplati. Ils ont également regardé ce qui se passe pour lambda égale 1. Donc lambda égale 1, je vous rappelle ce qui se passe. Pour lambda égale 1, c'est-à-dire pour un piège isotrope, perp égale oméga z, là, il ne faut pas espérer dépasser trop 1, à quelques pourcents près. Et effectivement, donc je remets ADD, qui est toujours à 15, ici, ADD. Eh bien, ce qu'ils voient, c'est qu'en partant d'un nuage qui est stable, ici, pour des valeurs petit a plus grandes que ADD, eh bien, dès qu'ils descendent au voisinage de 15, leur condensat disparaît et ils ne voient pas de condensat du tout entre 0 et 15. Voilà, donc ça c'est une belle illustration de cette absence de métastabilité, si vous voulez, dans cette zone-là, pour un piège isotrope, oméga perp égale oméga z. Et ils ont fait, en fait, cette expérience, c'était vraiment très courageux, ils ont fait cette expérience avec 6 pièges différents, 6 rapports d'aspect, oméga z et oméga perp, leurs résultats ont bien confirmé ce qu'on attendait, c'est-à-dire que le A critique pour lequel on n'observe plus de condensat, eh bien, tant qu'on est dans des rapports d'aspect lambda inférieur à 1, essentiellement, il faut toujours avoir ADD plus petit que A, ou GDD plus petit que G, hein, c'est pour ne pas avoir à taper dans la zone instable. Et en revanche, quand on prend des pièges beaucoup plus aplatis, quand on se met ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, le condensat survit, même quand il n'y a plus d'interaction de contact, en présence seulement d'interaction dipolaire. Voilà, donc c'est la courbe noire, c'est la théorie que j'ai exposée précédemment. Alors une question que vous posez peut-être, c'est que se passe-t-il pour un gaz instable? Alors là encore, ce sont des expériences qui ont été faites à Stuttgart pour la première fois, c'était en 2008 cette fois-ci. Donc ils sont partis d'un condensat de chrome, toujours, dans un piège isotrope pour ces expériences-ci, et dans un état stable, petit a plus grand que ADD, interaction de contact plus grande que les interactions dipôle-dipôle. Ils ont amené soudainement la valeur de petit a, l'interaction de contact, en dessous de ADD. Ça, c'est grâce à une résonance de Fano-Feshbach, donc dans la zone instable. Et ils ont attendu un temps ajustable, relativement court. Hein, c'est des temps qui sont de fraction de millisecondes. Et ensuite, ils ont fait une expansion balistique de leur nuage. Ils ont regardé ce qui se passait. Donc, initialement, ils observent ça. Et puis, très rapidement, après quelques fractions de millisecondes, ce qu'ils voient, c'est un anneau qui apparaît ici, un anneau d'axe Z. Ça, c'est des images. L'axe Z est, je vais le mettre, l'axe Z est comme ça. Donc, quand vous voyez cette chose-là, là, ici, ça, eh bien, ça, c'est un anneau dans le plan XY qui est en train de s'étaler très vite, puisqu'on prend une image après expansion balistique. Donc, ça, c'est un anneau qui est en train de s'étaler très vite. Cet anneau résulte d'une implosion radiale du système. Donc les vitesses, les particules ont initialement une vitesse nulle ou quasiment nulle dans le gaz, tant qu'on est dans cette situation-là. Et puis, quand on bascule la longueur de diffusion en dessous de l'ADD, eh bien là, à ce moment-là, les atomes se précipitent vers l'axe Z, donc ils acquièrent une grande vitesse, et c'est ça qui, en temps de vol, en expansion balistique, génère cet anneau. Vous avez ici une simulation numérique qui rend très bien compte des résultats. Cette simulation numérique, elle est inspirée d'un travail qu'avaient fait Ueda et Saito un petit peu avant. Ça consiste à reprendre essentiellement l'équation de Schrödinger que j'ai écrite, enfin Schrödinger non linéaire que j'ai écrite au tableau avec le potentiel phi dd, auquel on ajoute un terme non hermitien, avec un coefficient imaginaire ici, pour décrire les pertes d'atomes liées aux collisions inélastiques. Et vous voyez qu'en ajustant bien le coefficient de perte, qui est noté ici L3, on reproduit bien ce résultat. Pourquoi il faut mettre ce terme-là? Eh bien, simplement parce que comme on a une implosion, les densités deviennent très grandes, et donc il y a beaucoup de collisions inélastiques qui se produisent, il y a des pertes d'atomes. Le nombre d'atomes que vous avez ici n'est pas du tout le même que celui que vous avez là. L'intérêt de la modélisation théorique, en plus de bien reproduire ce qu'on voit, c'est d'aller voir ce qui se passe in situ. À l'époque, la résolution optique la résolution optique de l'expérience n'était pas suffisante pour aller voir ce qui se passait in situ ici. Donc on ne pouvait voir que ce qu'il y avait après expansion balistique. Mais dans la théorie, évidemment, on peut regarder ce qu'il y a in situ. Et ça confirme bien l'implosion radiale que j'annonçais, c'est-à-dire que in situ, à t égale 0, vous partez de ce nuage-là, dans le piège quasi-isotrope, et puis après le 0,5 millisecondes qui donne naissance à cet anneau qui s'étend rapidement, eh bien voilà la forme du nuage, c'est vraiment un petit filament le long de l'axe Z. Les atomes se sont tous précipités les uns vers les autres le long de cet axe. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ce cadre-là. Alors, pour terminer, le dernier paragraphe que j'aimerais faire, c'est passer à ce qui se passe quand on est en géométrie semi-infinie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si maintenant, au lieu de prendre un piège harmonique selon les trois axes X, Y et Z de l'espace, je relâche le confinement du piège selon un axe ou selon deux axes. Donc, il y a deux géométries que j'ai en tête. La première, eh bien, ça peut être celle d'un fil, où là, j'ai fait tendre oméga z vers 0, le confinement selon z, et puis je garde oméga perp fini. Donc mes dipôles sont alignés le long de l'axe du fil, et je vais appeler L perp la taille transverse de mon fil. L'autre cas limite, tout aussi intéressant, c'est le cas d'un plan, où là, cette fois-ci, c'est oméga perp qui tend vers 0, oméga z reste fini, et j'appelle à ce moment-là petit lz, l'épaisseur de mon gaz, selon la direction z. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que quand je m'intéresse à des phénomènes donc, qui se passent le long de l'axe du fil, dans le cas de gauche, ou dans le plan, pour le cas de droite, et quand je dis des phénomènes, je veux dire par exemple des propagations d'ondes sonores, ou des excitations, mais des excitations qui sont de grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire que si je prends le fil qui est comme ça, je vais m'intéresser à des excitations de grandes longueurs d'onde, lambda z, grande devant L perp, la taille du fil, ou ici je prendrai des excitations dans le plan, de longueur d'onde lambda perp, grande devant l'épaisseur LZ du gaz, puis à ce moment-là, finalement, les interactions dipolaires sont très simples à décrire. Je vais repartir de la formule qui est écrite là-bas, mais je vais vous montrer comment elles se simplifient dans ces deux cas limites. Alors pour ça, je vais le refaire au tableau. Je vais repasser au tableau. Donc je me fais un petit peu de place. Donc je vais commencer par le fil. Bon, je reprends mon papier pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc, le cas du fil. Et donc, je vous dis, je regarde soit la statique, soit une excitation. Une excitation, donc, avec, dans le cas du fil, qui aura une longueur d'onde lambda z le long de l'axe de mes dipôles, très grande devant L perp. Alors, pour ça, ben donc, ce qu'il me faut, c'est que je revienne à ce dont j'ai besoin, c'est l'expression de phi dd, hein, puisque ce que je veux, c'est voir ce que je vais mettre dans mon équation Schrödinger. Donc, il faut que je regarde ce que vaut phi dd ici. Alors, si je reprends mon équation de Poisson pour Laplacien, je l'écris comme ça, Laplacien phi égale, donc je l'écris, c'est moins rho, hein, c'est ça, moins rho, oui. Moins rho de R. C'était bien, il y avait bien un signe moins, oui. Oui, c'est bien ça, oui. Donc, ce Laplacien-là, c'est D2 sur DX2 de phi, plus D2 sur DY de phi, plus D2 sur DZ de phi, égale moins rho. Donc, si je suis dans le cas L perp, donc lambda Z très grand devant L perp, qu'est-ce qui varie vite là-dedans? Ce qui va varier vite, c'est essentiellement, dans le cas du tube, c'est essentiellement les D2 sur DX2 et D2 sur DY2. La variation rapide, elle va venir du confinement selon Z. La variation selon Z, elle viendrait éventuellement de ce lambda Z, mais tout état de cause, elle est petite devant ça. Donc, je peux négliger ça. Et j'en déduis donc que le phi qui est écrit ici, donc D2 sur dφ2, c'est phi sur L perp, mon phi est de l'ordre de moins L perp fois rho. C'est un ordre de grandeur, là. Hein. Je peux même mettre ça un seul signe comme ça pour bien dire que je ne suis pas en train de faire des choses quantitatives. L perp carré, pardon, fois rho. Et si maintenant, je regarde ce que je vais mettre dans mon crochet pour phi dd, puisque c'est phi dd qui va rentrer dans l'équation de Gross-Pitalski, filet de R. Donc, filet de R, alors que je le reprenne bien, où est-ce que je l'avais ? Enfin, il écrit là-bas, c'est moins GDD fois rho de R, plus 3 fois. Donc, la dérivée seconde, enfin, je réécris la formule qui est écrite là-bas, la dérivée seconde de phi. Voilà, comme ça. Maintenant, quand j'ai cette chose-là, attendez, je vérifie que je ne me suis pas trompé là dans ce que j'ai écrit. Oui, sinon c'est bien ça. Si je regarde maintenant la dérivée seconde de phi d2z sur dφ, c'est de l'ordre de φ sur lambda z carré. Hein, puisque φ, la variation selon z, c'est la modulation que j'ai mise ici. Donc mon φ ici, quand je replace cette formule-ci, c'est moins L perp carré sur lambda z carré fois rho. Et comme j'ai dit que je prenais lambda L perp très petite devant lambda z, cette chose-là est donc très petite devant rho. Donc, quand j'ai affaire rho plus 3 fois d2 sur dz2, ce terme-ci est petit devant le premier, et donc là, j'ai à peu près égal à moins gdd fois rho de r. Ça veut dire que dans mon équation de Gross-Pitayevski, que je peux réécrire pour que vous voyez tout ce que je veux dire, dans mon équation de Gross-Pitayevski, eh bien, le terme d'interaction va avoir une structure très simple. Donc l'équation de Gross-Pitayevski, je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est moins h bar carré sur 2m laplacien psi, plus éventuellement le potentiel u de r, plus on avait g rho de r, plus phi dd de r, psi de r, égale mu psi de r. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le phi dd qui est ici, dans le cas de ces excitations le long de mon fil, le phi dd, il est à peu près égal à moins gdd de r. C'est-à-dire que la contribution de la dérivée seconde de phi, du potentiel auxiliaire, est négligeable devant l'euro. Donc, pour mon fil, ici, tout ce que je peux faire, c'est remplacer ça g par g moins gdd fois rho de r. Donc, pour le fil, finalement, les interactions dipolaires, pour la géométrie du fil, les interactions dipolaires pour les excitations de grande longueur d'onde, c'est simplement une renormalisation de petit g qui devient g moins gdd. C'est aussi simple que ça. Si maintenant je passe dans le cas du plan. Donc dans le cas du plan, même hypothèse, sauf que les indices sont inversés, je m'intéresse à un lambda perp, longueur d'onde lambda perp, qui est très grande devant Lz. Je reprends mon équation de Poisson, d2 phi plus dy phi plus d2z phi égale donc moins rho. Et maintenant, eh bien, phi varie beaucoup plus vite le long de l'axe z que le long de l'axe x et y. Maintenant, c'est le confinement selon z qui joue. Donc là, je peux négliger ça. Et j'ai simplement des deux phi. Dérivée seconde de phi par rapport à z, qui est égale à moins rho. Donc, mon potentiel phi dd, va être égal à quoi ? Eh bien, il va être égal à moins gdd fois rho de r, plus 3 fois des deux phi par rapport à z, mais des deux phi par z c'est moins rho, donc ça me fait moins 3 fois rho de r. Et donc ça c'est égal, alors 1 moins 3 ça fait moins 2, et moins 2 fois moins ça fait plus 2, donc c'est égal à plus 2 fois gdd rho de r. Et donc ce résultat que j'avais pour le fil ici, maintenant, si je le prends pour le plan, eh bien, au lieu d'avoir g moins gdd, j'ai simplement le g plus 2 fois gdd qui apparaît, puisque je remplace mon phi dd ici par 2 fois gdd rho de r. Donc ça, c'est le plan. Donc dans les deux cas, j'ai une structure très simple, pour la force des interactions à mettre dans mon équation de Gross-Pilevsky, c'était les limites de la fonction f de kappa que j'avais tout à l'heure. Oula. Mais simplement, là, on les trouve de manière analytique. Je n'ai pas eu besoin de calculer cette grosse fonction f de kappa qui était, je vous ai dit, avait une expression pas très agréable. Là, on retrouve très simplement, à partir de l'équation de Poisson, la structure du terme d'interaction. Et c'est ça, si par exemple vous voulez calculer la vitesse du son des excitations, soit dans le long du film, soit dans le plan, c'est ça qu'il faudra qu'on utilise. On le fera plus en détail la prochaine fois, mais c'est ça qui viendra. Voilà. Bien, on approche de la fin. Donc, un mot de bilan et puis un mot de ce qui nous attend pour la suite. Donc, le bilan de ce cours. Donc, c'est finalement, on a pu mettre en place la description d'un gaz à température nulle dans le cadre de sa position de champ moyen. Le terme d'interaction, on l'a mis sous forme Gérô plus phi dd. C'est encore ce qui est écrit ici. Hein. C'est le terme d'interaction, c'est ça. Donc, à ce stade, c'est exact dans le cadre de la théorie de champ moyen. Et puis, on a étudié la stabilité globale du gaz selon la forme du piège harmonique qu'il confine. Ce qu'on a vu, c'est que le gaz était stable tant que les interactions dipolaires étaient assez faibles, tant que ADD était plus petit que A, ou GDD plus petit que G, comme c'est équivalent. Et en revanche, dès que ADD devient plus grand que A, à ce moment-là, la stabilité dépend de la forme du potentiel. Si je prends un piège en forme de galette suffisamment aplatie, c'est toujours stable, ou métastable, je devrais dire. Je peux même l'écrire, métastable. Ou métastable. En revanche, quand on a affaire à un cigare ou une sphère, essentiellement, enfin, il faut quelque chose de peu aplati, à ce moment-là, on a une implosion qui se passe dès qu'on dépasse, ADD dépasse la valeur en temps. Et puis, on a trouvé ce que je viens de mettre au tableau qui nous servira dans la suite, c'est-à-dire que pour un fil, eh bien, Gérô plus phi dd pour des excitations de grande longueur d'onde peut être assimilé à G moins GD fois Rho, et donc on pressent qu'on va avoir des instabilités dès que GDD dépassera G dans ce fil, hein, puisque ce sera sur les interactions attractives, peut-être formation de solitons, quelque chose comme ça, mais enfin, bon, ce ne sera pas la solution uniforme qui sera la solution d'énergie la plus basse. En revanche, dans le plan, dans un système plan, ben, à ce moment-là, on a G plus 2 fois GDD, et ça, il n'y a pas de souci de stabilité. Et j'insiste que tout ça, c'est valable pour des structures dont l'échelle spatiale est grande devant la dimension confinée. Hein, j'ai utilisé que lambda z était grand devant Lperp. Si maintenant je regardais des modulations dans le long de mon tube, mais qu'il y avait une période de l'ordre de la dimension transverse du tube, ou même chose dans le plan ici, à ce moment-là, cette conclusion ne serait plus valable. Il faudrait que je fasse plus attention quand je résous mon équation de Poisson. Bien. Et alors, le programme pour le prochain cours, eh bien, ce que j'aimerais au prochain cours, c'est justement aller regarder plus en détail ces excitations. Donc, une excitation typique, c'est une modulation sinusuelle de densité comme celle-ci, qui se propage avec un vecteur d'onde K. On cherchera sa fréquence oméga de K. On passera pas mal de temps sur le gaz planaire, celui qu'on a étudié là juste au tableau pour finir, en se plaçant dans le régime GDD plus grand que G. Et ce qu'on verra apparaître, c'est un résultat qui est vraiment remarquable, c'est le fait que la relation de dispersion oméga en fonction du vecteur d'onde K, fréquence en fonction du vecteur d'onde, eh bien, n'est pas une relation monotone comme celle à laquelle on est habitué pour les gaz quantiques ordinaires, si je puis dire, mais c'est une relation qui est beaucoup plus proche de ce qu'on trouve dans la physique de l'hélium superfluide, c'est-à-dire que c'est une relation avec un maximum local ici, puis un minimum local ici, ce minimum s'appelle un minimum de Roton, et pour le cas du gaz qui est représenté ici, eh bien, on verra que le vecteur d'onde pour lequel ce Roton apparaît, c'est simplement l'inverse, facteur numérique près, l'inverse de l'épaisseur ici, 1 sur Lz. Et donc ça nous fera un très joli lien entre la physique de ces gaz dipolaires et la physique de l'hélium superfluide. Voilà, bon, je m'arrête ici. Merci beaucoup pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.